Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
En cette période de Noël, continuons à lire des textes scientifiques sur l'histoire de la neige. Après avoir lu des extraits de Kepler et de son cadeau de Nouvel An, puis de Descartes sur les météores, nous entrons dans le siècle des Lumières avec un livre écrit en 1747. Les allusions à Dieu n'ont plus lieu d'être en matière de physique. Dissertation sur la glace ou explication physique de la formation de la glace et de ses divers phénomènes par Dortus de Méran, l'un des 40 de l'Académie française et de l'Académie royale des sciences. Jean-Jacques Douroux de Méran, né en 1678 à Béziers et mort à 92 ans à Paris, était, comme vous allez le voir, un mathématicien et un observateur de la nature. J'ai du plaisir à lire un extrait de sa dissertation sur la glace, en particulier parce qu'il occupait, entre 1741 et 1743, le poste que j'occupe aujourd'hui de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors écoutons un extrait du chapitre 9. Il n'est pas bien rare qu'il tombe de la neige composée ou parsemée d'étoiles à 6 rayons égaux. Et avec une exactitude que le compas le plus fin et la main la plus sûre pourraient difficilement nous procurer. Elles sont tantôt plus petites, tantôt plus grandes, quelquefois de plus de 2 lignes de diamètre, mais presque toujours observables à la vue simple. Voilà donc de petits filets d'eau ou de glace qui, étant suspendus dans l'atmosphère et en pleine liberté d'exercer leur tendance, se sont joints les uns aux autres sous l'angle de 60 degrés. Car ce nombre est la sixième partie des 360 degrés que contient le cercle et par conséquent la mesure de chacun des 6 angles égaux qui ont leur sommet à son centre. Mais prenez garde que ces rayons se trouvent le plus souvent chargés d'autres petits filets de glace qui s'y joignent en second ordre et à ceux-ci d'autres encore en troisième ordre, etc., toujours sous un angle constant de 60 degrés. Ce qui est visible au microscope par leur parallélisme avec le rayon ou filet de l'ordre supérieur qui est à côté et dont il résulte une espèce de branchage et de rosette qui ne serait pas indigne de tenir sa place parmi les ornements du meilleur goût. Monsieur Muschenbrock a observé de ces étoiles hexagone et branchu, où l'angle de 60 degrés se manifeste de toutes parts, et il en a donné une figure qui exprime fort bien tout ce que nous venons d'en dire. J'en ai vu une fois à Paris de la même espèce, quoiqu'un peu moins composée. Deux autres sortes d'étoiles que feu M. Cassini observa dans la neige en 1692 ne diffèrent de celles de M. Muschenbroek qu'en ce qu'au lieu de simples branches qui se fourchent en plusieurs autres, ce sont comme des rameaux garnis de leurs feuilles. Et je suis fort trompé si ce ne sont pas là encore les étoiles hexangulaires vues par Kepler, le premier que je sache, qui en ait fait mention, et qui soit entré là-dessus dans quelques détails. Il y en a, enfin, qui n'offrent à la vue que six rayons pointus, à la manière dont on peint ordinairement les étoiles du ciel, et de plusieurs autres figures qui reviennent toujours, dans leur partie, à la même loi d'angle de 60 degrés, et dont le dénombrement serait superflu. Ces météores a eu sur ces sortes d'étoiles une idée aussi simple qu'ingénieuse. Six cercles égaux, décrits autour d'un septième, le toucheront et se toucheront entre eux, et il en sera de même de six sphères autour d'une septième sphère sur un même plan, et par conséquent six gouttelettes d'eau sphérique qui s'assembleront autour d'une de leurs semblables et y formeront un fleuron hexagone ou à six pointes, si l'espace triangulaire qu'elle laisse entre elles, celle du milieu est supposée remplie de glace. Et si l'on imagine ensuite plusieurs autres gouttes ou particules semblables qui viennent s'ajouter à la file autour de celle-ci et sur les mêmes six rayons qu'elles forment en partant du centre commun, il est clair qu'il en résultera une étoile hexagonale, ce qui s'exécuterait en ce cas sans qu'il y eût aucune force impulsive ou attractive, aucune tendance qui les y détermina. Voilà en gros l'explication de ce philosophe, des cercles ou des globules quelconques, mous ou flexibles, qui se comprimeront ainsi réciproquement les uns autour des autres, se changeront toujours en des hexagones. Je ne doute pas que la théorie de Descartes ne puisse avoir lieu en une infinité de cas et n'influe beaucoup sur l'hexagonisme si ordinaire dans la nature. Les yeux ou les cristallins de la plupart des mouches, rassemblés par milliers aux deux côtés de leur tête, ne nous présentent que des hexagones. Les alvéoles des rayons de miel, les capsules des graines de plusieurs plantes sont hexagones. Et presque tous les cristaux, dans leur formation, ne consistent qu'en des pyramides ou des prismes sexangulaires. Cependant, est-il bien sûr qu'il n'y ait dans tous ces cas que la théorie de Descartes à consulter ? Le pentagonisme n'est guère moins commun dans la nature. Quantité de plantes nous l'indique, également par les capsules de leurs graines et par les pétales ou feuilles de leurs fleurs, les étoiles marines par leurs rayons, plusieurs fossiles, presque tous les échinites par la disposition de leurs piquants. Je ne pense donc nullement que cette théorie soit applicable au phénomène dont il s'agit, non plus qu'à une infinité d'autres qui peuvent lui ressembler, car 1. Pourquoi les petits globules d'eau qui composent la nue ne s'assemblent-ils que sur un plan ? 2. Par quelles complications de hasard 6 de ces globules d'un second rang circulaire, qui à la rigueur en contient près de 12, autour des 6 premiers, viendront-ils s'ajuster précisément sur le même plan, sur les mêmes 6 rayons menés du centre ? Ainsi, des rayons supérieurs ne devraient-ils pas plutôt tomber entre 2 globules et dans l'angle formé par les rayons ? N'y trouveraient-ils pas plus de facilité à se loger ? N'y seraient-ils pas poussés par leurs voisins des rangs supérieurs ? Car un corps pressé de toutes parts par ceux qui l'environnent se dirige toujours vers les côtés où il est le moins pressé, comme ici, par exemple, vers le vide ou l'intervalle que laisseraient entre elles les extrémités des 2 rayons. Ajoutez que la difficulté de ces hasards, je pourrais dire l'impossibilité, croît en raison de la longueur des rayons, car il y a alors d'autant plus de rangs à imaginer. Or, la grosseur des rayons dans ces étoiles les plus simples ne fait pas quelquefois le 1/10 partie de leur longueur. Comment concevrions-nous la formation de celles qui sont plus composées, dont les rayons sont chargés de branches, et ces branches d'autres encore, comme dans les arbres, où elles se subdivisent à l'infini ? Qu'est-ce qui fait leur équilibre contre l'effort ou le heurt des globules d'eau ambiant vers le centre de l'étoile ou la partie inférieure du rayon primitif ? 4. Enfin, si cette propriété de globules qui n'ont d'ailleurs nulle tendance, nul arrangement déterminé les uns à l'égard des autres avait lieu en pareil cas, ce qui est inconcevable. D'où vient, en un mot, que la loi géométrique de l'arrangement hexagonal dans un même plan n'ait aucune prise ? Car, que devient, dis-je en ce cas, la raison géométrique de 6 globules autour d'un 7e ? Thank you. Il faut donc reconnaître, dans les particules de glace qui forment les étoiles de la neige, une autre cause, une cause active, un mécanisme plus caché, plus compliqué, et dont nous ignorons le détail, une direction de fibres, de pores ou de tuyaux, et, je ne crains point de le dire, une espèce d'organisation qui rend ces particules susceptibles du mouvement ou de la tendance que leur imprime quelque fluide subtil qui se meut dans leurs interstices ou dans les parties mêmes qui les composent et qui les détermine à cet arrangement constant, toujours relatif à l'angle de 60 ou de 120 degrés. Alors, Jean-Jacques Dourou de Meyran n'était-il pas un grand scientifique ? Observateur, lecteur et commentateur des travaux de ses prédécesseurs, et avec l'humilité de reconnaître qu'il ne comprend pas tout. Sa conclusion, un mécanisme plus caché dont nous ignorons le détail, est finalement assez proche de la conclusion de Kepler, qui disait lui aussi qu'il ne comprenait pas. Il faudra encore attendre longtemps avant de comprendre pourquoi les flocons de neige prennent une forme hexagonale. Alors bien sûr, vous l'avez reconnu, Vivaldi, les quatre saisons, et bien entendu l'hiver de Vivaldi, composé vers 1725, à peu près la période du texte que nous avons lu sur les flocons de neige.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.